là, ça, on n'aime pas trop. On aime, ça dépend. Il y en a qui disent, il n'y a pas de récompense, on est tous pareils. Et puis la Bible, elle parle de récompense. La Bible parle de récompense, et les récompenses sont liées à l'honneur. Alors ça veut dire quoi ? 2 Jean 1,8. Prenez garde à vous afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Bon, déjà, la Bible parle de récompense. Hein, c'est étonnant. Genèse 15, Dieu dit à Abraham, voilà, je suis moi-même ta récompense très grande. Dieu est notre récompense. La présence, par exemple, quand on loue le Seigneur, il y a la récompense de sa présence, de sentir sa présence, de vivre sa présence. Quand on prie pour les malades, il y a la récompense de la guérison. On ne prie pas, il n'y a pas de guérison. Donc, la notion de récompense, elle est partout dans les Écritures, hein, partout. Psaume 19, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements d'Éternel sont vrais, ils sont tous justes, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Donc, Dieu est un des caractères de Dieu, c'est un papa, hein. Il aime récompenser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a des chouchous. Dieu n'a pas de chouchous. Ça, c'est bien clair, hein. Mais il y a des récompenses. Et 2 Corinthiens 5, il est dit, nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans le corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Alors attention, le tribunal du Christ ne juge plus les péchés, parce que les péchés ont été pardonnés. Nous ici, nous sommes là, enfants de Dieu, tout a été pardonné. Le sang de l'agneau, nous sommes justes, purifiés, nous sommes ses fils et ses filles, bien-aimés. Parfois, on peut se planter, Dieu nous relève, on demande pardon et vraiment sincèrement. Ça, c'est l'aspect d'enfant de Dieu. Donc le tribunal de Christ, pour les enfants de Dieu, c'est pas, on va remettre à jour les anciens péchés que tu as faits, c'est pas ça. Mais il y a un tribunal par rapport aux œuvres, c'est-à-dire à la façon de bâtir, à la motivation. Par exemple, on peut prier, par exemple, pour les gens, quelle est la motivation ? On peut exercer des dons, quelle est la motivation ? Il y a des gens dans la Bible qui disent, mais Seigneur, on a chassé des démons en ton nom. Et Jésus leur dit, je vous ai pas connu. Donc les dons spirituels, que ce soit guérison, délivrance, prophétie, tout cela, il y a un tribunal de Christ qui juge. Alors il juge pas, il nous condamne pas, on est accepté en tant qu'enfant. Mais parfois des choses qu'on a pu faire, c'est comme s'il n'y avait plus rien, parce que ça tient plus devant le Seigneur. Parce que la motivation n'était par exemple pas l'amour. Voyez, ça c'est ce genre de tribunal de Christ. Donc il y a une récompense pour les œuvres qui sont faites avec la motivation de l'amour. Avec des choses qui durent. Donc voilà, c'est ça, le croyant qui est devant le tribunal de Christ, c'est ça. Nos actions, nos gestes, nos pensées, nos motivations, examinées à la lumière de la parole. Les choses temporelles sur lesquelles on a bâti nos vies, elles pourront être dévorées. Si on a bâti, par exemple, avec de la paille. Moi, j'ai malheureusement des connaissances, des amis, je me rappelle, il y a 30 ans en arrière, ils avaient des rêves et des visions pour leur vie, pour leur famille, en disant voilà le rêve. Et puis le problème, c'est que il n'y a rien qui coïncidait avec ce rêve. Et donc ils ont toujours attendu qu'un jour, quelque part, ça tombe comme ça du ciel. Ils attendent encore. Et ils n'ont pas vu les choses se réaliser. Dieu veut qu'on bâtisse avec de l'or. Il y a une récompense pour bâtir comme lui, il bâtit. Il y a une récompense pour agir comme lui, il agit. Proverbe 28, 20, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. N'y ajoute aucun chagrin. Être comblé de bénédiction, c'est être comblé de récompense quelque part. Hein, la bénédiction. Regardez la parabole des talents. Jésus, il est très. La parabole des mines dans Luc. Jésus dit voilà, si tu es fidèle dans ce que je te confie, eh bien moi je te confierai plus grand. Ça s'appelle une récompense. Voyez ? Tu es fidèle dans une petite chose, eh bien Dieu t'en confie une grande. Alors je ne sais pas comment on peut l'appeler autrement, mais la Bible, elle donne cette idée de la récompense par rapport à ça. Et une des récompenses, par exemple, dans cette parabole des mines, Jésus dit, tu as été fidèle pour ces mines, cet argent que je t'ai donné, eh bien moi je vais te confier le gouvernement de ville. C'est quand même étonnant que les paraboles de Jésus aient souvent affaire à la gestion financière. Alors ici, il y a les boîtes d'offrandes de dîmes, c'est tout à l'heure, hein, on y viendra, mais c'est quand même étonnant. Cette parabole des mines, ça parle de fric, quoi. Hein. Cette parabole des talents, ça parle de fric aussi. Alors nous, on dit, ah, toi, c'est quand même, il faut spiritualiser, c'est pas ça, c'est les dons qu'on a. Mais Dieu, il parle d'abord, Jésus parle d'abord d'argent. Donc, cette, la notion de récompense, elle est pour tous les domaines. Quand on marche avec Dieu, il y a une récompense. Regardez, par exemple, la récompense de l'honneur. Honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps. Quand même, on se dit, mais c'est quoi le rapport, quoi? Parfois, on se dit, mais attends, j'honore mon père et ma mère, c'est quoi cette idée de vivre longtemps? Voyez, mais il y a une récompense par rapport à l'honneur, par rapport à la façon de faire les choses. Et quelle que soit l'onction que nous avons, quels que soient les dons qu'on a reçus de Dieu, la façon de les exercer, la motivation, elle passe par le feu un jour. Et ce feu, eh bien, on aimerait que bâtir avec de l'or. Et je crois que régulièrement, on peut dire, Seigneur, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi. Et même si j'ai des fruits, attention, les fruits peuvent être trompeurs. On peut avoir des fruits dans un ministère et puis se rendre compte qu'au fond, la motivation, ce n'est pas toujours ça. Donc maintenant, j'aimerais parler de l'honneur, parce que l'honneur est lié à la récompense avec Dieu. Et j'aimerais prendre quelques textes dans la Bible qu'on connaît bien, hein, on les connaît bien, mais on va les relire comme ça, ensemble. Par exemple, le texte 1, Marc 6, versets 1 à 5. Jésus partit de là. Il se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous ici? » Et il était pour eux une occasion de chute. Et Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » J'aime bien un peu le « si ce n'est ». Il n'a pu faire aucun miracle, si ce n'est quelques guérisons. Voyez, bon. Alors qu'est-ce que c'est les miracles selon Dieu? Mais regardez, attardons-nous sur le texte n'a pas dit « Dieu n'a pas voulu faire de miracle ». Le texte dit « Dieu n'a pas pu faire de miracle ». C'est quand même, c'est choquant quelque part. C'est étonnant. Il a pu faire aucun miracle. Qu'est-ce qu'il en a empêché? Dans les autres villes, il accomplissait tous les miracles. Il guérissait tous les malades. Il chassait tous les démons. Il y a souvent cette expression, il guérissait tous. Et là, il ne put faire aucun miracle. Ouh, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ailleurs, les aveugles voyaient, les oreilles des sourds s'ouvraient, les boiteux se mettaient à marcher, les morts étaient ressuscités. Et ici, ça coince. Eh bien, la réponse, elle se trouve dans les paroles des habitants de Nazareth. Ça se passe à Nazareth. D'où ça lui vient-il? Comment est-ce que ça peut se faire? Il se prend pour qui, quelque part? Parce qu'il lisait le Ésaïe 61 sur la promesse du Messie. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, ce jour est accompli aujourd'hui. Et les gens, tout de suite, ils ont vu, ah, il se prend pour le Messie, quoi. Il se prend pour le Messie. Donc, il se prend pour qui, celui-là? Vous voyez, cette attitude de cœur-là, on ne le reconnaît pas. Parce que eux, ils attendaient le Messie, mais comment? Ils attendaient le Messie qui arrive, chef de guerre, les Romains, un coup de pied dans les fesses, et terminé, on balaye l'occupation romaine, on instaure le règne de Dieu, et voilà. Et puis non, manque de peau, ça vient par un bébé, quoi. Alors là, et puis ce jeune homme, pendant 30 ans, il n'a rien foutu, quoi. Il s'est charpentier, il fait les meubles. Et les gens, il se dit le Messie, mais c'est lui qui a fait mon plumard là en bois dans ma chambre, c'est lui qui l'a taillé, c'est le charpentier. Et il faudrait quand même pas exagérer, voyez. Il faut se mettre quand même à la place des gens. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose. Dieu nous envoie souvent ce dont nous avons besoin. Donc un Messie, un sauveur, quelqu'un qui nous guérit, mais dans un colis que nous ne voulons pas. Dieu nous envoie souvent la délivrance, mais dans un colis qu'on ne veut pas. Et là, le colis, c'était un charpentier. C'est pas possible que ça soit le Messie. Et attention au colis que Dieu nous envoie. Dieu envoie la délivrance, il faut discerner. Et l'honneur qu'on accorde, s'ils avaient accordé un peu d'honneur, là, même au charpentier, même s'ils savaient qui c'était, un peu d'honneur, je pense que les choses auraient été différentes. L'honneur. Commencez par regarder la déclaration de Jésus. par rapport à la réaction de sa ville natale, par rapport à son ministère. Dans Marc 6, il dit « On ne refuse pas d'honorer un prophète, sinon dans son pays, parmi les gens de sa parenté ou de sa maison. » Le mot-clé ici, c'est « honorer ». Alors honorer, le terme honorer, bon, qu'on parle le grec, ou valoriser. Honorer, c'est valoriser, accorder de la valeur. Accorder, donner du poids. Quand il est par exemple dit « honore tes parents », le texte hébreu, ça veut dire exactement « donne du poids ». Ça ne veut pas dire obligatoirement, quand par exemple tu as 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, de faire tout ce qu'ils te disent. Il y a des gens encore, il y a des gens un peu qui ne réfléchissent pas tellement. Ils disent bah, « de la parole dit, il faut honorer, donc je fais tout ce qu'ils me disent ». Si ils te disent « ne te marie pas », tu ne vas pas te marier, tu vas rester chez papa, maman toute ta vie. Tu vas dire « j'ai honoré mes parents ». Ça ne veut pas dire ça. La Bible, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que tu accordes du poids à ce qu'ils te disent. Tu pèses. Et quand tu es adulte et que tu es... Voilà, tu pèses. J'accorde de la valeur à ce qu'ils disent. Et parfois, eh ben, ce qu'ils disent, ben, c'est... Voilà, si tu dis « va pas à l'église, tu as 18 ans », tu vas dire « bon, je prends en considération ce que tu dis, mais je vais y aller, quoi. Hein » Voilà. Donc je donne du poids. Oui, c'est ça que ça veut dire. Donner du poids. Apprécier. Apprécier, estimer, regarder favorablement, respecter. Hein, ça c'est, tout ça, c'est les synonymes de honneur. Alors, l'honneur. Alors, si on prend les opposés, les antonymes, qu'est-ce qu'on a ? Ne pas témoigner de respect, ne pas estimer, ne pas reconnaître la valeur, traiter de façon ordinaire. C'est ordinaire. Par exemple, tu as quelqu'un qui vient, puis dans ta tête, tu dis « je sais déjà ce qu'il va dire ». Je connais. T'es blasé, quoi. T'es blasé. Hein? Ça peut être un sœur, une frère dans l'église, un frère dans l'église, et puis tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il a m'apporté, celui-là? Vous voyez, c'est ce genre de truc-là. Et puis ce petit-là, cet enfant, il me dérange, là. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de lui? À ce genre d'attitude, c'est pas l'honneur. Hein? Ensuite, traiter de façon normale, ordinaire, servile. Traiter la chose comme quelque chose de commun, de léger, de superflu. Ah, j'ai déjà entendu. Ah, je connais déjà. T'as par exemple une prédication, tu commences par un texte et tout de suite dans ta tête, tu dis ah, je connais. Terminé. Hop, on ferme les rideaux, terminé, emballé, on attend la fin du culte. Voilà. Ça, c'est quelque chose, c'est nous tous, on est touchés par ça. Hein. Donc, on a tous besoin de redécouvrir l'honneur. Et l'honneur peut se manifester de trois façons. Il peut se manifester par les actions, par ce qu'on fait. Il peut se manifester par nos paroles, par ce qu'on dit. Et l'honneur peut se manifester aussi par nos pensées, dans nos pensées. Alors j'aimerais, il y a ce texte, l'honneur en fait, le véritable honneur que Dieu veut pour nous tous, eh bien il commence dans le cœur, au fond du cœur, au centre de notre cœur. C'est là que ça se passe. Ésaïe 29, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore des bouches et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Donc voilà, Dieu avait vu juste, Dieu regarde au cœur. Donc l'honneur, c'est une affaire de cœur. Alors Jésus, il a dit que ces gens de Nazareth, ils ne l'ont pas honoré. Les habitants de sa ville l'ont traité, n'ont pas traité Jésus comme quelqu'un de précieux, voyez. Ils l'ont traité comme le fils du charpentier, le gars du coin, quoi. Le pote qu'on a, avec qui on a grandi, voyez. Et à cause de ça, ils ont reçu qu'une petite récompense, quelques guérisons. Quelques guérisons. Voilà. Alors qu'ailleurs, ils ne le connaissaient pas, c'était plus facile. Alors du coup, il a eu l'honneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu toute la plénitude de Dieu qui s'est déversée. Donc, un deuxième texte, Luc chapitre 5, verset 17. Alors, c'est un texte qu'on va voir avec les parallèles d'évangile. Vous allez voir, très intéressant aussi. Il arriva l'un de ces jours que Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi, qui étaient venus de chaque bourgade de Galilée, de Judée, de Jérusalem, étaient assis là. Et là, je prends dans la version Darby. Écoutez bien, je crois qu'elle est fidèle. D'ailleurs, il faudra vérifier après coup. Mais la puissance du Seigneur était là pour les guérir. Attention, c'est la seule version qui dit ça. La puissance du Seigneur était là pour les guérir. Qui ? Les pharisiens et les docteurs, ceux qui étaient là, quoi. D'accord ? La puissance était là pour les guérir. Donc la puissance de là, Dieu est là. L'amour de Dieu, il est là pour tout le monde. Hein. Même pour les pharisiens et les scribes. Elle est là. Et puis, on voit que c'est le même passage où, plus tard, dans, vous avez le contexte, tous les pharisiens, tous les scribes qui sont autour de Jésus, la puissance de guérison, elle est là. Et puis vous avez des gens qui, la foule était tellement autour de Jésus qu'on ne pouvait pas y approcher, ils amènent leurs potes paralysés, ils font un trou dans le toit, ils l'amènent au pied de Jésus, ils ont grillé tout le monde, ils n'ont pas fait la queue, ils n'ont pas fait la file d'attente, ils ont grillé tout le monde en passant par le toit. C'est pas bien, hein. C'est pas bien, hein. Ça c'est pas bien. Mais ça traduisait une soif de Dieu, une foi en lui, et là Dieu a guéri. Alors regardez Luc 5, verset suivant. « Voici des hommes portant sur un lit un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à l'introduire, à le mettre devant lui. Ne trouvant pas par quel moyen ils pouvaient l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, descendirent les tuiles, enlevèrent les tuiles. Avec son petit lit au milieu, il descendit devant Jésus. Et voyant leur foi, il dit « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Et les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, disant « Mais qui est celui-ci qui peut faire des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» etc. Les pharisiens, ils se mettent à raisonner, ils se mettent à dire. Et il y a un autre évangile qui donne une précision, c'est Matthieu 9, c'est le même passage, même histoire. Et la Bible dit, voici quelques-uns des scribes dirent en eux-mêmes, cet homme blasphème. Donc ils n'ont même pas parlé, ils n'ont fait que penser. Mais Dieu a entendu. L'atmosphère qui s'est libérée de leur pensée seulement, ça suffit pour enlever une atmosphère d'incrédulité, une atmosphère de déshonneur, une atmosphère qui n'a pas attiré la guérison et la provision. Aucun des pharisiens et des docteurs, il est dit dans la Bible, n'a été guéri. Et par contre, le paralytique l'a été. La puissance de guérison, elle était là pour tout le monde. Mais ceux qui n'ont pas honoré, ceux qui ont déshonoré, ceux qui ont murmuré dans leur cœur, eh bien, ils n'ont rien vu. La guérison n'a pas été... Pour eux, est-ce que Dieu a des chouchous ? Non. Dieu aime tout le monde. Dieu veut bénir tout le monde. Mais la guérison est attirée par une culture de l'honneur. La présence de Dieu est attirée par une culture de l'honneur. Alors le paralytique se lève. Il prend son brancard, il quitte sous le regard des docteurs de la loi. Voilà. Ils étaient tous frappés d'étonnement, mais aucun d'eux n'a été guéri. Parfois, on peut être étonné des choses de Dieu. Waouh, mais c'est extraordinaire. Mais comment ça se fait que moi, je ne vis pas ça? Voilà. Ici, dans ce contexte, eh bien voilà, il n'y avait pas l'honneur à Jésus. Ils s'étaient moqués de lui. Ils l'ont dénigré. Et ils ont souvent tenté de même l'humilier publiquement. Et ça, on voit ça dans beaucoup de textes. Par exemple, Luc 6, les scribes et les pharisiens observaient s'il guérirait un jour du sabbat, afin qu'il trouve de quoi l'accuser. Vous voyez, c'est quand même, c'est vicelard, ça. Hein. Voilà, on va essayer de trouver. Luc 20, en l'observant, ils envoyèrent des agents secrets qui feignaient d'être justes pour le surprendre en quelques paroles, de manière à le livrer au magistrat, au pouvoir du gouverneur, le coincer. Vous voyez, ça, c'est un état d'esprit. Alors là, on est aux antipodes de l'honneur. Mais entre ça et puis honorer Dieu, il y a toute une grille, toute une échelle. Et j'aimerais qu'on soit conscient de cette échelle. Alors, les habitants de Nazareth ont refusé l'honneur qui était dû à Dieu. Ils ont une petite récompense, récompense tout à fait partielle, quelques guérisons. Et les pharisiens ont déshonoré, ils n'ont eu aucune récompense. Alors, maintenant, il y a une pleine récompense. Alors, heureusement, hein, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a pour nous une pleine récompense. Et il y a un exemple, encore biblique, dans le Matthieu chapitre 8, l'épisode du centurion. Quand le centurion, il avait quelqu'un à guérir dans sa famille, son serviteur, et il dit à Jésus, « Je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Et écoutez, le contexte, c'est quoi? Le centurion romain, c'est quand même l'occupant, quoi. Hein, c'est l'occupant, hein. Et puis, Jésus, c'est le juif, quoi, l'occupé. Hein, et l'occupant dit, le plus fort, le général, le chef, quoi. Il dit, je ne suis pas digne d'entrer sous ton toit. Il a placé Jésus au-dessus de lui. Et ça, c'est quand même, dans le contexte de l'époque, il faut le faire quand même. Hein, il l'a placé au-dessus de lui. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Hein. Il est ensuite plus tard, car moi aussi je suis un homme placé sous l'autorité, ayant sous moi des soldats, je dis à l'un va, il va, à l'autre vient, il vient, et à mon esclave fait ceci, il le fait. Il explique à Jésus pourquoi il a demandé à Jésus d'exercer cette autorité. Donc lui, il est respecté, il est obéi par ses soldats. Pourquoi? Parce qu'il honore son chef. C'est ça qu'il dit ce gars. Ce centurion, il dit, je suis obéi parce que moi, je suis soumis à mes chefs, donc j'honore les autorités au-dessus de moi. C'est pour ça qu'il y a une autorité que j'ai, parce que j'honore. En fait, tu honores l'autorité, tu reçois de l'autorité. La Bible va dire, on va voir tout à l'heure, que tout ce que tu honores, c'est comme si tu l'approches de toi. Tu vois, si tu veux, par exemple, je sais pas, quelque chose que quelqu'un il a, il faut arrêter de convoiter. Il faut honorer. Et tu vas recevoir ce qu'il a. Ça, c'est, on va voir tout à l'heure le verset. Donc là, il honorait ses chefs et donc il avait l'autorité. Et il a compris, car moi aussi, hein, je suis un homme. Donc il a compris avec Jésus, il a reconnu que l'autorité de Dieu sur Jésus, elle était phénoménale. Il a reconnu ça. Et cet officier, il sait que Jésus exerce une autorité dans son royaume spirituel, invisible. Voilà. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va dire de cet homme? Il va dire un truc incroyable. Verset 10. Est-ce que vous avez remarqué ce verset 10? Jésus, l'ayant entendu, s'en étonna et dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé, même en Israël, là, une si grande foi. » Il avait 30 ans quand il a dit ça à Jésus. Ça veut dire quoi qu'il n'a pas trouvé en Israël une si grande foi? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait pas la foi du centurion. Marie, sa mère, elle n'avait pas la foi du centurion. Personne en Israël n'avait la foi du centurion. Et qu'est-ce qui fait que cette foi du centurion était si grande? Eh bien, moi je crois dans ce texte qu'il y a une combinaison entre l'honneur et la foi. Je pense qu'une culture de l'honneur, et c'est ce que la Bible dit, une culture du sens de l'honneur, eh bien, elle libère la foi. Elle libère la foi. Donc c'est capital cette histoire. Et nous, Français, on a plus de mal avec ça. On a plus de mal. C'est étonnant. Tout le monde le dit. Hein. Vous allez par exemple, moi je vais souvent en Afrique. Alors là, c'est parfois trop. On est gêné parfois. Tu arrives dans l'église, tu as ta Bible, tu sais, tu as ta grosse Bible. On te l'arrache. Pourquoi? Parce qu'on veut te la porter. Alors toi, tu dis attends, on n'aime pas ça. Alors et moi, pendant vraiment avec mes amis, quand on y va, on n'aime pas ça. Et c'est trop parfois. Vous êtes sur une estrade, vous avez les grands fauteuils des anciens. Alors, t'es invité, ils te mettent sur le fauteuil, t'es là, t'as même quelqu'un qui te fait de l'air comme ça quand il n'y a pas de clim. Tu es vraiment embêté. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est impressionnant. Il y a quelque chose, tous les serviteurs de Dieu le disent. Quand tu vas là-bas, alors t'es traité comme un roi, mais il y a quelque chose qui se libère de toi, de l'onction de Dieu, que tu vois nulle part ailleurs. Et moi, je me demande si ce n'est pas lié avec le sens de l'honneur. Franchement, c'est impressionnant. Et alors, on peut sourire, hein, et bien sûr, c'est pas ce qu'on veut pas copier, c'est pas ça que je dis. Hein. Mais je dis, on veut cultiver le sens de l'honneur. Et vous allez voir, la pleine récompense, le centurion, il l'a eu. Imaginez ce centurion, il a plus de foi que Jean-Baptiste, que Marie. Moi, ça me bouleverse cette histoire. Qu'est-ce qui rendait sa foi si grande? C'est la combinaison de l'honneur qu'il a témoigné à Jésus et de la compréhension de l'autorité de Jésus. Voilà. Donc l'autorité, l'honneur et la foi vont ensemble. Plus il y a la foi, plus il y a l'honneur. Plus il y a d'honneur, plus il y a de foi. Plus il y a d'honneur, plus il y a d'autorité. Plus il y a d'autorité, plus il y a d'honneur. Tout ça, ça s'enchevêtre. Nous sommes une maison du tissage. Et nous voulons tisser les mots autorité, honneur et foi. Alors, on veut être des hommes de foi, des femmes de foi. Comment? Honore ton prochain, ton frère, ta sœur, tes autorités, même ceux qui sont sous ta responsabilité, tes enfants. Honore. C'est le chemin de la foi. Troisième texte, Marc 7, versets 23 à 30. Et se levant, il s'en alla de là vers les frontières de Tyr et de Sidon. Étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût. Il ne put être caché, car une femme dont la fille avait un esprit immonde, ayant entendu parler de lui, vint et se jeta à ses pieds. Or la femme était grecque, syrophénicienne de race. Elle pria qu'il chassât le démon hors de sa fille. Et Jésus lui dit, laisse premièrement rassasier les enfants. Car il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Elle répondit et lui dit, « Oui, Seigneur, car même les chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Et il lui dit, « À cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille et s'en alla de sa maison. » Elle trouva le démon sorti, sa fille couchée sur le lit. Alors là, c'est vraiment un texte étonnant. C'est vraiment un texte bizarre, ça. Jésus qui traite une femme quelque part de chienne, enfin, je m'excuse, mais c'est, il la compare, il fait une comparaison un peu... Je trouve que ça paraît déplacé quand même. Mettez-vous à la place de cette femme. Elle est là, elle voit les disciples autour de Jésus, elle a un besoin, elle a besoin que sa fille soit délivrée, elle crie, elle vient, elle frappe, et puis elle se heurte à un mur. Elle te dit, attends, il se dit pasteur ? Il se dit pasteur, ce gars-là ? Il s'occupe même pas de moi ? Il s'occupe que de ses disciples. Il n'y en a que pour eux. C'est faillot. Et puis moi alors ? Et moi alors ? Et en plus, il me traite de chienne, il fait une comparaison. Et je peux vous assurer que là, il y aurait de quoi réagir et de dire mais comment vous osez me parler ainsi? Vous êtes raciste? Je suis grec, c'est ça? Je suis pas juive? C'est parce que je suis grec que vous me traitez comme ça? Oui. Elle aurait pu balancer. Hein. Vous êtes là assis avec votre disciple, vous ignorez les appels à l'aide d'une pauvre femme pour sa fille. C'est ça l'amour que vous prêchez? Ça y est, j'ai compris. Il y a une multitude à impressionner ici. Vous voulez juste impressionner vos disciples et puis moi alors? Vous voyez, elle aurait vraiment pu mal prendre la remarque de Jésus, qui était quand même cinglante. Hein. Je n'ai pas encore compris cette remarque d'ailleurs. S'il y a une explication, vous me la donnez. Hein. Voilà, c'est une réponse. Voilà, mais sauf qu'à la fin, il va quand même la bénir. Alors, voilà. Non, c'est bien, c'est juste, c'est une réponse. Mais ce qu'on voit, c'est qu'elle a brisé tout le protocole, elle répond à Jésus, elle honore Jésus. Et ça me touche. Elle lui dit, Seigneur, déjà là, Seigneur, même les chiens sous la table mangent les miettes. Vous vous rendez compte, c'est... Elle a dû prendre sur elle quand même. Hein. Elle a dû prendre sur elle. Et donc on va... Jésus l'a guérie, quoi. La guérison, elle l'a reçue, mais elle aurait pu passer à côté. Elle aurait pu passer à côté. Il a fallu qu'elle prenne sur elle, qu'elle continue d'honorer, même si tout en elle n'avait peut-être pas envie d'honorer Jésus. Il y a une loi spirituelle ici, 1 Samuel 2:30. Ceux qui m'honorent, je les honorerai. Ceux qui me méprisent seront en petite estime. C'est pour ça que la louange, c'est quoi? C'est honorer Dieu. Et honorer Dieu, qu'est-ce qui se passe dans la louange? Plus on presse dans la louange, et bien plus Dieu honore ceux qui le louent et agit au milieu de la louange. C'est pour ça qu'il siège au milieu de la louange, parce qu'il siège dans l'honneur. Jésus siège dans l'honneur. La Trinité, c'est une culture de l'honneur. Le Père honore le Fils honore le Père, le Fils honore le Saint-Esprit. Ils n'arrêtent pas de s'honorer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une puissance de créativité. Dans cet honneur, ça crée le monde, etc. Donc, Dieu dit, ceux qui m'honorent, je les honorerai, ceux qui me méprisent seront en petite estime. Donc, tous ceux qui ont honoré Jésus quand il était sur la terre ont reçu quelque chose de lui, ont reçu quelque chose de Dieu. Marc 14, 3-9, comme il était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, qu'il était à table, une femme vint, ayant un vase d'albâtre plein de parfums de nard, pur et de grand prix. Ayant brisé le vase, elle le répandit sur sa tête. Et quelques-uns étaient là et qui s'imaginaient en eux-mêmes et disaient « À quoi bon la perte de ce parfum ? Car le parfum aurait pu être vendu pour 300 deniers et être donné aux pauvres. » Ils la reprenaient vivement. Mais Jésus dit « Laissez-la, pourquoi lui donnez-vous du déplaisir ? Elle a fait une bonne œuvre envers moi. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et quand vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait. Elle a anticipé le moment d'oint de mon corps pour ma sépulture. En vérité, je vous le dis, en quelque lieu que cet évangile soit prêché dans le monde entier, on parlera aussi de cette femme, a fait en mémoire d'elle. Ça, c'est impressionnant. Jésus honore. Regardez les gens qui l'honorent. C'est toujours des gens qui l'ont honoré, lui. Et là, on voit cette culture de l'honneur. Et alors, aujourd'hui encore, l'on parle de cette femme. Elle n'avait pas idée... qu'en faisant ça, le monde entier, pendant 2000 ans, allait parler de ce qu'elle a fait. Pas idée ! Et moi, je suis convaincu qu'au milieu de nous, il y a des gens qui honorent Dieu. C'est caché, c'est pas vu. Mais Dieu est en train d'élever et d'honorer ceux qui l'honorent. à Béthanie, cette femme, Jésus a fait l'éloge, l'éloge du centurion, l'éloge de cette femme. Et regardez Jean 13, 20, « Quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Recevoir quelqu'un, c'est l'honorer. » Jésus dit, « Quiconque m'honore, honore le Père qui m'a envoyé. » C'est ça que ça veut dire. Et Jésus dit clairement, Jean 5, 23, « Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Donc la semaine avant la crucifixion, Jésus a fait une déclaration absolument bouleversante. Écoutez ça, Luc 13, 35, toujours dans l'honneur. « Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ça veut dire, vous ne me percevrez pas, vous ne me verrez pas tant que vous ne m'honorez pas. Il y a un rapport entre voir avec les yeux du cœur et honorer le Seigneur. Donc ici, remarquez ce texte, hein. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc on pourrait dire, en vérité je vous le dis, celui qui reçoit, ça veut dire qui honore, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. On pourrait traduire m'honore. Et qui me reçoit, c'est-à-dire qui m'honore, reçoit, c'est-à-dire honore celui qui m'a envoyé. Donc écoutez ça, je reprends Jean 13, en vérité je vous le dis, celui qui honore celui que j'aurai envoyé, m'honore, et celui qui m'honore, eh bien, honore celui qui m'a envoyé. Il y a un principe ici important. Jésus dit la même chose maintenant dans Matthieu 10, on termine bientôt. Matthieu 10, 40-42. Là, il y a un texte vraiment, je ne sais pas si... Il y a quelque chose de très fort dans ce texte par rapport à l'honneur. Écoutez ça. Et vous traduisez, chaque fois qu'il y a reçoit, ça veut dire honore. Regardez. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque aura donné à boire seulement une coupe d'eau froide à l'un de ses petits, en qualité de disciple, en vérité je vous le dis, il ne perdra pas quoi ? Sa récompense. On traduit avec honneur, même passage, regardez. Celui qui vous honore, m'honore. Celui qui m'honore, honore celui qui m'a envoyé. Celui qui honore un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Celui qui honore un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque honorera seulement d'une coupe d'eau froide l'un de ses petits en qualité de disciple, en vérité je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Trois niveaux. Honorer un prophète en qualité de prophète, c'est j'honore ce qui est au-dessus de moi. D'accord ? Ce qui est plus grand que moi. Ce qui est plus mûr que moi. C'est plus que moi. J'honore. Honorer un juste en qualité de juste. J'honore celui qui est comme moi. Nous sommes tous justes. J'honore à l'horizontale mes frères, mes sœurs. Celui qui donne un verre d'eau à l'un de ses plus petits. J'honore celui qui est plus petit que moi. Celui qui est plus faible. Celui qui connaît peut-être moins. Celui qui est sous ma protection. On honore tout le monde. Et la capacité de l'honneur, elle n'est pas réservée à ceux qui sont dessous, entre guillemets, pour ceux qui sont dessus. Ça serait vraiment, c'est pas le message biblique. Hein. Mais elle parle aussi d'honorer celui qui est au-dessus, à qui il a été beaucoup donné, honore celui qui est le plus petit. Et cette culture de l'honneur, elle est pour tous ces niveaux. Vous ne me verrez plus, dit Jésus, jusqu'à ce que vous honoriez ceux qui viennent en mon nom. Et vous savez, ceux qui viennent en mon nom, parfois Dieu envoie un enfant. Il peut envoyer un enfant pour être une réponse pour toi. Dieu peut envoyer un frère, une sœur, même quelqu'un qui t'énerve peut-être, comme une réponse pour toi. Attention à comment tu vas l'honorer. Si tu vas honorer, tu vas recevoir ce que Dieu a voulu pour toi. Attention à ne pas balancer, voyez, à ne pas faire une croix, à ne pas juger quoi. Sinon, on se coupe. On croit être le plus fort en jugeant. Mais en jugeant, on se prive de la bénédiction. Avec l'apôtre Paul, j'aime bien ce texte, je termine bientôt. L'apôtre Paul qui était un chef d'équipe. Souvent, je l'ai dit, je m'excuse si je répète, mais j'ai le droit, je suis grand-père, donc j'ai le droit de répéter. Voilà. Alors, il dit à son équipe, voilà, on va aller là. Toute l'équipe dit, ouais, chouette, super, super, Paul, on va là. Et puis ensuite, le Saint-Esprit dit, non, c'est pas là. Alors il va à son équipe, il dit, ben non, c'était pas là. Planté une fois. L'équipe, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle pourrait dire, bon, le chef d'équipe, là, il craint. Hein ? s'est planté une fois, il n'entend pas bien Dieu, on va changer de chef. Hein. Mais ils ont continué à marcher avec Paul. Paul, une deuxième fois, Dieu, il sent dans son cœur, il faut aller là. Deuxième fois, le Saint-Esprit dit, stop, c'est pas là, c'est là-bas. Oh mince, deuxième fois. L'équipe qui est là dit, bah, ce Paul, ça craint. Deux fois, il s'est planté, on a failli tous être dans le mur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à honorer. On croit en toi, Paul. On te suit encore. On te suit encore. Et ça, ça a libéré quoi? Ben, ça a libéré la confiance, je pense, de Paul en Dieu, en lui-même, en cette équipe. Et cette libération de confiance, cet honneur, elle fait que le plan de Dieu peut se réaliser. Ça m'impressionne. Et je termine, nous sommes un réseau qui s'appelle le réseau Héritage. Je peux vous dire qu'il n'y a pas d'héritage sans honneur. Et je termine par écoutez ce proverbe, c'est un proverbe béton. Dans les proverbes, vous avez des trésors comme ça, on ne fait pas gaffe parce que ça passe de l'un à l'autre. Proverbe 17:2, écoutez ça. Un serviteur sage domine sur le fils qui fait honte et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Donc vous avez une famille, vous avez un fils qui fait honte, d'accord, qui fait n'importe quoi. Et vous avez un serviteur qui n'a pas droit à l'héritage. C'est un serviteur, c'est un esclave. Il n'a droit à rien du tout. Qui c'est qui va gagner l'héritage? C'est celui qui honore. Et le fils qui n'honore pas, il perd l'héritage. Rappelez-vous Isaac avec Jacob et Ésaü. Hein, et Ésaü avait le droit d'aînesse, mais il avait faim. Alors l'autre, il lui dit, écoute, je te donne ce potage, mais... donne-moi l'héritage, quoi, le droit d'aînesse. Et l'autre, il a méprisé l'héritage. J'ai dit, moi, je n'en ai rien à foutre de l'héritage. Je préfère bien bouffer là ce soir parce que j'ai vraiment faim. L'héritage, j'en ai que faire. Parce qu'il l'a méprisé, il ne l'a pas eu. Ouh là 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 là. Il était légitime d'avoir l'héritage, il ne l'a pas eu. Donc, ce qu'on honore, on le reçoit. Ce qu'on déshonore, on le perd. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime plus. Dieu, il nous aime quand même, mais on perd l'héritage. Donc, je répète, un serviteur sage domine sur le fils qui fait honte et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Donc, voyez, ne pas faire honte, honorer. Tout ce que tu honoreras s'approchera de toi. Tout ce que tu déshonoreras s'éloignera de toi. Que dans cette église, on puisse délivrer une culture de l'honneur. Une culture de l'honneur. Pour les prophètes, ceux qui sont au-dessus de nous, ceux qui sont comme nous et ceux qui sont à notre charge parfois. Et chacun d'entre nous, on a les trois niveaux. Hein. Chacun d'entre nous. Hein. Il n'y a personne qui peut se dire, moi je suis là, je ne suis pas là. On est tous dans ces trois niveaux. Mais qu'on puisse honorer et recevoir une pleine récompense. Célébrer le Christ dans mon frère et dans ma sœur. Et ce climat-là, mes amis, c'est le climat du miracle. C'est le climat de la grâce. C'est le climat du ciel. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cette culture du ciel. Nous prétendons pas que nous y sommes arrivés. Mais Seigneur, nous la désirons, cette culture-là. Et nous comprenons que c'est la culture qui conditionne le déferlement de l'esprit, la liberté de toutes les grâces et de tous les dons au milieu de nous. Seigneur, apprends-nous à honorer les autorités, à honorer les frères et sœurs, les justes, et à honorer les enfants. Et Seigneur, que dans cette culture de l'honneur, eh bien, tu puisses être libre d'agir et de bénir, comme tu le veux, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme ce peuple de Nazareth qui est tombé dans l'excès de familiarité, mais nous voulons toujours reconnaître que dans le frère et sœur et la sœur qui est là, eh bien, il y a le Christ qui est vivant. Et Seigneur, nous voulons respecter, valoriser ce que tu valorises, ce que tu honores. Seigneur, merci pour chacun d'entre nous ici. Et merci pour cette culture dans laquelle nous disons, nous voulons y rentrer, Seigneur. Merci Jésus. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Je propose en cette fin de culte simplement d'honorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Est-ce qu'il y aura un dernier chant qui pourrait être pris au niveau de louange? Je ne sais pas ce que vous n'avez pas répété, je vous prends un peu.